Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Albert van der Kwallen, le protagoniste de l'une des nouvelles de Thomas Mann que vous allez entendre dans l'émission qui va suivre, vous rappellera peut-être Gustav von Aschenbach, malheureux héros de l'un des plus célèbres textes de son auteur, La mort à Venise. Comme lui, il est en voyage, seul, en proie à la mélancolie et succombe au charme d'une suave apparition. Savez-vous, monsieur, ce que c'est que la déception ? Interroge quant à lui l'homme rencontré sur la place Saint-Marc par le narrateur de la seconde nouvelle, avant de s'employer à lui en expliquer la nature dans une méditation sur l'existence qu'il conclut par ces mots « Le langage est riche, excessivement riche, comparé à l'indigence et à la limitation de la vie ». Bonne nouvelle, grand comédien, Catherine Sellers lisait « L'armoire et déception » de Thomas Mann dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 octobre 1975.
J'ai choisi deux nouvelles de Thomas Mann, L'armoire et Déception. Il faisait sombre et frais, et le crépuscule tombait, quand l'express Berlin-Rome entra dans une gare d'importance moyenne. Sur la large banquette en peluche rouge à housse de crochet d'un coupé de première classe, se dressa un voyageur solitaire, Albrecht van der Kwallen. Il s'éveillait. Il sentit un goût fade dans sa bouche, et tout son corps fut envahi du sentiment point très agréable que produisent, après un trajet assez long, un brusque arrêt, la cessation du roulement scandé et le silence d'où appels et signaux se détachent avec un relief extraordinaire. Albrecht van der Kwallen s'étira un peu, s'approcha de la fenêtre et baissa la glace. La modeste gare baignait dans la pénombre. Était-ce le soir ou le matin ? Il l'ignorait. Il avait dormi. 2 heures ou 5 ou 12 ? Impossible de le dire. Ne lui arrivait-il pas de dormir 24 heures d'affilée ou davantage, d'un sommeil profond, extraordinairement profond ? C'était un monsieur en pardessus d'hiver mi-long, brun foncé, à col de velours. Il eût été malaisé de déchiffrer son âge sur sa figure. On pouvait hésiter entre 25 ans et la fin de la trentaine. Il avait le teint jaunâtre, mais des yeux noirs, ardents comme braise, cernés de grandes ombres. Ces yeux-là ne présageaient rien de bon. Au cours de graves et franches conversations d'homme à homme, plusieurs médecins ne lui avaient guère accordé beaucoup de mois à vivre. À part cela, ses cheveux sombres étaient lisses, rejetés de côté. À Berlin, il était comme par hasard monté avec sa valise de cuir rouge dans l'express précisément en partance. Il s'était endormi, et à présent, au réveil, il se sentait si totalement affranchi du temps qu'un sentiment de bien-être l'envahit. Il n'avait pas de montre. Il n'aimait pas avoir la notion exacte de l'heure ou même du jour de la semaine et ne possédait point de calendrier. Depuis longtemps, il avait perdu l'habitude de savoir en quel jour du mois on était ou même quel mois ou quelle année. « Il faut que tout reste en l'air », pensait-il volontiers. Expression qui pour lui en disait long, encore qu'elle fût assez vague. Ne lui suffisait-il pas de deviner à peu près en quelle saison l'on se trouvait ? « C'est plus ou moins l'automne, se dit-il en regardant le hall sombre et humide. Je n'en sais pas davantage. Sais-je seulement où je suis ? Et soudain, à cette pensée, sa satisfaction se mua en un joyeux effroi. Il ignorait où il se trouvait. Était-il encore en Allemagne ? Assurément. En Allemagne du Nord ? C'était à voir. Ses yeux, encore hébétés de sommeil, avaient vu la fenêtre de son compartiment glisser devant un écriteau éclairé qui peut-être indiquait le nom de la station, mais pas une des lettres inscrites n'était parvenue jusqu'à son cerveau. Là, pourtant, là-bas, dans une pénombre dont il ne savait si elle était une aube ou un crépuscule, il y avait une ville inconnue. Albrecht van der Kuylen prit son chapeau de feutre dans le filet, s'empara de sa valise de cuir rouge, et bien que son billet fût pris pour Florence, il quitta le compartiment. Il traversa la modeste gare, déposa son bagage à la consigne, alluma un cigare, enfonça ses mains dans les poches de son pardessus et sortit. Il longea un mur bas, un vieux portail flanqué de deux tours massives, et traversa un pont au parapet orné de statues et sous lequel l'eau roulait son flot sombre et paresseux. Une longue barque vermoulue passa. À l'arrière, un homme l'activait avec une perche. Van der Kuylen s'arrêta un instant et se pencha sur le garde-fou. « Tiens, se dit-il, un fleuve. Le fleuve. Il est agréable d'ignorer son nom. » Puis il continua sa route. C'était le soir. Les lampes à arc électrique s'allumèrent, clignotèrent un peu et trouèrent le brouillard. Les magasins fermaient. Donc, mettons que c'est sous tous les rapports l'automne, pensa Van der Kuylen. Et il continua d'avancer sur le trottoir noir et mouillé. Des gens le croisaient, allaient à leurs affaires ou en revenaient. Et moi, je chemine parmi eux, pensa-t-il. Et je suis solitaire et étranger, comme vraisemblablement aucun être ne le fut jamais. Je n'ai pas d'affaires, pas de but, pas même une canne pour m'appuyer. Nul ne saurait être plus dépourvu d'attaches, plus libre, plus dégagé. Personne ne me doit rien et je ne dois rien à personne. Dieu n'a jamais étendu sa main au-dessus de moi. Il ne me connaît pas. Un honnête malheur sans aumône est une bonne chose. On peut se dire « je ne dois rien à Dieu ». Il arriva bientôt à l'extrémité de la ville. Il tourna à droite, passa devant trois ou quatre venelles presque semblables à des ruelles de village éclairées de rares becs de gaz et s'arrêta enfin devant la porte d'une maison d'apparence ordinaire badigeonnée d'un jaune trouble qui néanmoins se distinguait par des vitres dépolies et très convexes. Sur la porte figurait un écriteau avec l'inscription « Dans cette maison, chambres allouées au troisième étage ». « Tiens, se dit-il, en jetant le bout de son cigare, et il franchit le seuil. Au troisième étage se trouvaient des entrées à droite et à gauche de l'escalier, de simples portes de chambre brunâtres où ne figurait aucun nom. Van der Kuylen tira par le milieu la poignée de cuivre de la sonnette, de longs pas légers se firent entendre, et l'on ouvrit. C'était une femme, une dame grande et maigre, âgée et étirée en longueur, vêtue d'une robe noire fanée. Son bonnet à grande coque d'un violet pâle encadrait un visage recroquevillé d'oiseau, et sur son front s'étalait une éruption, une sorte de végétation semblable à de la mousse. C'était assez répugnant. « Bonsoir, » dit Van der Kuylen. « Les chambres... » La vieille dame inclina la tête. Elle sourit lentement, en silence, pleine de compréhension, et de sa belle main longue fit un geste languide et distingué vers la porte la plus rapprochée à gauche. « Tiens, tiens, se dit-il, Vous êtes, ma bonne dame, une figure de cauchemar, comme un personnage d'Hoffmann. » Elle décrocha la lampe à pétrole et le fit entrer. C'était une pièce lamentablement démeublée, avec des murs blancs, nus, sur lesquels trois chaises d'osier laqué rouge clair se détachaient comme des fraises dans la crème fouettée. Une armoire, un lavabo avec une glace, le lit, un meuble d'acajou extraordinairement imposant, était placé au milieu de la pièce. « Avez-vous une objection quelconque ?» demanda la vieille dame. Et elle passa légèrement sa belle main longue et blanche sur la végétation moussue de son front. « Non, je n'ai aucune objection, » dit Van der Quallen. « La chambre est assez ingénieusement aménagée, je la loue. Je voudrais qu'on aille chercher mes affaires à la gare. Voici le bulletin de consigne. Je vais faire un bout de toilette, dîner en ville, et je reviendrai plus tard. » Il tira de sa poche un étui nickelé, y prit une savonnette et se mit en devoir de se rafraîchir le visage et les mains au lavabo. Puis, tout en se séchant les mains, il se dirigea vers l'armoire. C'était un meuble carré verni de brun, assez branlant, avec un fronton naïvement décoré, dressé au milieu de la paroi de droite, juste dans le renfoncement d'une porte blanche. Tout de même, en ce monde, certaines choses s'arrangent bien, pensa Van der Quallen. Cette armoire s'emboîte dans la niche de la porte comme si elle avait été faite tout exprès. Il ouvrit. L'armoire était complètement vide, avec plusieurs rangées de crochets dans le haut. Mais il constata que ce meuble solide n'avait pour tout fond qu'une étoffe grise, une toile d'emballage ordinaire, assujettie aux quatre coins par des clous et des punaises. Il referma l'armoire, prit son chapeau, remonta de nouveau le col de son pardessus, éteignit la bougie et s'enfuit. En traversant la pièce de devant, il lui sembla entendre, mêlé au bruit de ses pas, à côté, dans l'autre appartement, une résonance. Un son léger, clair et métallique. Mais peut-être se trompait-il. C'est comme si un anneau d'or tombait dans une coupe d'argent, se dit-il. Dans une rue animée, un restaurant éclairé l'attira, et il prit place à l'une des premières tables en tournant le dos à tout le monde. Il consomma un potage aux fines herbes avec du pain grillé, un beefsteak et un œuf, de la compote et du vin, un petit morceau de gorgonzola vert et la moitié d'une poire. Pendant qu'il réglait l'addition et enfilait son pardessus, il tira quelques bouffées d'une cigarette russe, sur quoi il alluma un cigare et sortit. La maison aux vitres bombées était complètement obscure et silencieuse quand Van der Quallen ouvrit la porte brune qui conduisait chez lui. Après avoir posé sur le divan son pardessus et son chapeau, il alluma la lampe du grand bureau où il trouva sa valise, en tira une bouteille de cognac, prit un gobelet et tout en finissant son cigare, il sirota sa liqueur à petites gorgées par intervalles, carré dans son fauteuil. C'est agréable, pensa-t-il, que dans la vie, il y ait du moins le cognac. Ensuite, il alluma la bougie sur la table de chevet, se déshabilla, ouvrit l'armoire. Il recula d'un pas, s'agrippa à l'une des grosses boules rondes d'acajou qui ornaient les quatre coins du lit. La lueur vacillante des bougies éclairait la chambre avec ses murs nus et blancs sur lesquels les chaises laquées en rouge se détachaient comme des fraises dans la crème, mais l'armoire, dont la porte béait, n'était point vide. Quelqu'un s'y dressait. Une forme, une créature si suave que le cœur d'Albrecht van der Quallen s'arrêta un moment de battre, puis se reprit à palpiter à longs coups pleins et doux. Elle était nue, et l'un de ses bras minces et délicats se levait pour nouer son index autour d'un crochet du haut de l'armoire. Les ondes de ses cheveux bruns coulaient sur des épaules enfantines, d'où émanait un charme auquel seul pouvait répondre un sanglot. Le reflet des bougies se mirait dans ses yeux noirs en amande. Sa bouche, un peu large, avait une expression aussi douce que les lèvres du sommeil lorsqu'après des journées de souffrance, elle se penche sur notre front pour l'effleurer d'un baiser. Elle avait joint les talons et ses jambes élancées se serraient étroitement. Albrecht van der Kwallen se passa la main sur les yeux et vit aussi qu'au bas du coin droit, le panneau d'étoffe grise était détaché du fond de l'armoire. « Comment, dit-il, ne voudriez-vous pas entrer ? Plutôt, comment dire, sortir ? Prendriez-vous un petit verre de cognac ? Ou la moitié d'un petit verre ?» Il n'attendait pas de réponse à ses paroles et n'en reçut point. Le regard des yeux étroits, brillants, si noirs qu'il semblait insondable et dénué d'expression, se posa sur lui, mais sans repère ni but, un peu vague, comme s'il ne le voyait pas. « Veux-tu que je te raconte ?» dit-elle soudain d'une voix calme et voilée. « Raconte, » répondit-il. Il s'était laissé choir sur le rebord du lit, son paletot sur les genoux et ses mains croisées au-dessus. Sa bouche s'entrouvrit et ses yeux étaient mi-clos, mais son sang circulait chaud et doux dans son corps et bourdonnait dans ses oreilles. Elle s'était accroupie dans l'armoire et enlaçait de ses bras frêles un de ses genoux qu'elle avait remonté, tandis que l'autre jambe pendait au dehors. Ses avant-bras comprimaient ses seins menus et la peau tendue de son genou luisait. Elle raconta, raconta à mi-voix, tandis que la flamme des bougies exécutait des danses silencieuses. Ils étaient deux qui cheminaient sur la lande, et sa tête à elle se blottissait sur son épaule à lui. Les plantes exhalaient un parfum violent, mais déjà les brouillards du soir montaient du sol. C'est ainsi que cela commença. Et souvent le récit était en vers, qui rimait de façon incomparablement légère et suave, comme cela nous arrive parfois au cours d'une nuit de fièvre dans le demi-sommeil. Mais l'histoire ne finissait pas bien. Le dénouement était aussi triste que lorsque deux êtres s'étreignent indissolublement leurs lèvres jointes, tandis que l'un plonge un large couteau dans le corps de l'autre au-dessus de la ceinture et pour de bons motifs. Cela finissait ainsi. Puis elle se redressa, d'un mouvement infiniment discret et modeste, souleva le bout droit de l'étoffe grise qui tapissait le fond de l'armoire et ne fut plus là. Désormais, il la retrouva chaque soir dans son armoire et il l'écouta raconter. Combien de soirs, combien de jours, de semaines ou de mois resta-t-il dans ce logis et dans cette ville? Mais citer un chiffre ne servirait à personne qui donc prendrait plaisir à un misérable chiffre. Et nous savons que plusieurs médecins n'avaient accordé à Albrecht van der Kwallen que peu de mois à vivre. Elle lui racontait des histoires. Et c'était des histoires tristes, désespérées, mais elle se posait comme un doux fardeau sur le cœur et le faisait battre à coups plus lents, plus ineffables. Souvent, il s'oubliait. Son sang bouillonnait dans ses artères, il étendait les mains vers elle. Et elle ne lui résistait pas. Mais ensuite, durant plusieurs soirs, il ne la retrouvait plus dans l'armoire. Et lorsqu'elle revenait, elle ne lui racontait rien. Puis, lentement, elle reprenait ses récits, jusqu'à ce qu'il s'oubliât de nouveau. Combien de temps cela dura-t-il? Qui sait? Qui sait d'ailleurs si vraiment Albrecht van der Kwallen s'éveilla cet après-midi-là et débarqua dans une ville inconnue. Ou si plutôt, il ne resta point endormi dans son compartiment de première et ne laissa pas l'express Berlin-Rome l'emporter à une vitesse inouïe par-delà les monts. Qui d'entre nous oserait répondre avec certitude à cette question et assumer la responsabilité de la réponse? Cela reste dans le vague. Tout doit rester en l'air. La matinée d'automne, où la vue de cet inconnu me frappa pour la première fois sur la place Saint-Marc, remonte déjà à environ 2 mois. De taille à peine moyenne, il marchait vite et courbé, tenant des deux mains sa canne dans le dos. Il pouvait avoir 30 ans, peut-être aussi 50. Son visage, au nez un peu épais et aux yeux gris, au regard las, était rasé de près, et autour de sa bouche se jouait constamment un inexplicable sourire un peu niais. De temps en temps seulement, haussant les sourcils, il jetait à la ronde un coup d'œil scrutateur, puis, les regards de nouveau tournés vers le sol, il grommelait quelques mots pour lui seul, secouait la tête et souriait. Dès lors, je l'observais tous les jours. Car il semblait n'avoir d'autre occupation que de parcourir 30 ou 50 fois cette place dans les deux sens, que le temps fût beau ou mauvais. Toujours seul, et toujours avec le même comportement bizarre. Le soir que j'évoque, un orchestre militaire avait donné un concert. J'étais assis à l'une des petites tables du café Florian, dont la terrasse déborde largement sur la place. Quand la musique eut pris fin, la foule commença de se disperser et l'inconnu, souriant d'un air absent comme à l'accoutumée, s'installa à côté de moi à une table devenue vacante. Le temps s'écoula. Le dos tourné à mon voisin, je lisais le journal, quand voilà que soudain, il se mit à me parler. « Vous êtes à Venise pour la première fois, monsieur ?» Vous voyez tout ceci pour la première fois. Cela correspond à votre attente. Et la dépasse même, peut-être. Vous ne l'imaginiez pas plus beau. C'est vrai. Vous ne parlez pas ainsi pour feindre le bonheur et susciter l'envie. Le silence qui se fit dura longtemps, et ne sachant comment poursuivre cet étrange entretien, j'allais me lever quand il se pencha vivement en avant. « Savez-vous, monsieur, ce que c'est que la déception ?» demanda-t-il à voix basse et insistante en s'appuyant des deux mains sur sa canne. « Pas un échec, un faux pas petit et isolé, mais la grande déception, la déception totale !» Celle que tout, celle que la vie entière prépare à quelqu'un. Assurément, vous ne la connaissez pas. Laissez-moi vous dire que j'ai grandi dans une toute petite ville, chez un pasteur. Dans les pièces trop astiquées, flottait un optimisme scolastique, pathétique et désuet. On y respirait une singulière atmosphère d'éloquence sacrée, avec ses mots pompeux pour définir le bien et le mal, la beauté et la laideur, ces mots que je hais si amèrement, peut-être parce qu'ils sont seuls responsables de ma peine. Il me souvient, monsieur, avec une triste acuité, de ma première déception. J'étais encore presque un enfant quand un incendie éclata une nuit dans ma maison paternelle. Je fus le premier à m'en apercevoir, et je sais que je m'élançai dans la maison en poussant à diverses reprises le cri « Au feu ! Au feu ! Enfin ! Enfin ! Au feu !» Je me rappelle ce mot avec une grande netteté. Et je sais aussi de quel sentiment profond il dérivait, encore qu'à l'époque, je n'en ai guère eu conscience. « Voilà, me disais-je confusément, un incendie. Il m'est enfin donné de le vivre. Et ce n'est rien de pire. C'est tout. » Dieu sait pourtant que ce ne fut pas une mince affaire. La maison entière brûla. Nous ne réussîmes à nous sauver que de justesse au milieu des pires dangers, et je fus pour ma part assez grièvement blessé. Mais la vision informe de quelque chose d'encore bien plus effroyable avait vécu en moi. Et par comparaison, la réalité me semblait terne. L'incendie fut ma première grande expérience. Avec lui, un immense espoir se trouva frustré. Avec une ardeur malheureuse, j'alimentais ma grandiose attente par mille lectures, les œuvres des poètes. Hélas, j'ai appris à les haïr, ces poètes, qui inscrivent sur tous les murs leurs grands mots et voudraient, si possible, les peindre sur la voûte du ciel avec une plume trempée dans le Vésuve, alors que chaque grand mot me fait souffrir comme un mensonge ou une dérision. Des poètes en transe m'ont chanté que le langage était pauvre. Ah, pauvre que non, monsieur. Le langage, me semble-t-il, est riche, excessivement riche. Comparé à l'indigence et à la limitation de la vie. Je suis entré dans cette fameuse vie, dévoré du désir de vivre un événement, un seul, qui correspondit à mes grandes prémonitions. Dieu me pardonne, cet événement ne m'a pas été accordé. J'ai parcouru le monde pour visiter les contrées les plus vantées de la terre. J'ai contemplé les œuvres d'art devant lesquelles l'humanité danse en leur prodiguant les plus grands mots. Je suis resté devant elle à me dire « c'est beau, mais pas plus beau que cela. » C'est tout. Vous voudrez bien admettre que j'ai assez vécu pour avoir un peu voix au chapitre. Il y a des années, j'ai aimé une jeune fille. Une créature délicate et suave que j'aurais volontiers guidée par la main et prise sous ma protection. Mais elle ne m'aimait pas. Est-il aventure plus douloureuse ? Est-il rien de plus pénible que ce violent désir atrocement mêlé de volupté ? J'ai passé bien des nuits les yeux grands ouverts. Mais plus triste, plus suppliciante que le reste, me fut toujours la pensée « La voilà la grande douleur. Voilà que je la vis. Et après tout, qu'est-ce ?» Est-il besoin de vous parler aussi de mon bonheur, car j'ai connu également le bonheur, mais le bonheur m'a déçu. J'évoque souvent le jour où, pour la première fois, j'ai vu la mer. La mer est grande, la mer est vaste. Du rivage, mon regard errait vers le large et espérait une libération. Mais là-bas, tout au fond, il y avait l'horizon. Pourquoi ai-je un horizon ? J'attendais de la vie l'infini. J'en rêve et j'attends la mort. Ah, je la connais déjà si bien, la mort, la déception suprême. À mon heure dernière, je me dirais, voilà, c'est elle, voilà que je la vis. Et après tout, qu'est-ce ? Mais il fait froid à présent sur la place, monsieur. Je suis capable de ressentir cela. Votre serviteur, monsieur. Adieu.
C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien. Catherine Sellers lisait L'Armoire et Déception, deux nouvelles de Thomas Mann, dans une émission proposée par Patrice Galbeau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 octobre 1975. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
And run, and who could blame?